Chapitre 19. Spinoza. Dieu n'est pas un montreur de marionnettes. Ils restèrent un long moment silencieux. Puis, Sophie essaya de changer les idées d'Alberto en lui demandant « Descartes a vraiment dû être un drôle de personnage. A-t-il été très célèbre ?» Alberto soupira avant de répondre. Il eut une très grande influence. Il joua surtout un rôle déterminant pour un autre grand philosophe. Je pense au philosophe hollandais Baruch Spinoza, qui vécut de 1632 à 1677. Est-ce que tu vas aussi me parler de lui? J'en avais l'intention, oui. Nous n'allons pas nous laisser intimider par des provocations militaires. Je suis tout ouïe. Spinoza appartenait à la communauté juive d'Amsterdam, mais fut rapidement banni à cause de ses idées jugées trop subversives. Rarement un philosophe aura été aussi insulté, poursuivi que lui. Il fut même l'objet d'une tentative de meurtre. Et tout ceci parce qu'il critiquait la religion officielle. Il pensait que le christianisme et le judaïsme ne reposaient plus que sur des dogmes rigides et des rituels vidés de leur sens. Il fut le premier à adopter ce que nous qualifierons de perspective critique historique à propos de la Bible. Sois plus clair. Il rejetait l'idée selon laquelle Dieu aurait inspiré la Bible jusque dans les moindres détails. Selon lui, nous devrions toujours avoir en mémoire l'époque à laquelle la Bible a été rédigée. Une lecture critique de ce type met en lumière une série de contradictions entre les différents textes. En filigrane du Nouveau Testament, nous rencontrons Jésus, que l'on peut appeler le porte-parole de Dieu. Le message de Dieu invitait justement à se détacher d'un judaïsme devenu borné et étriqué. Jésus prêchait une religion de la raison, qui considérait l'amour comme bien suprême. Spinoza entend par « amour » aussi bien l'amour envers Dieu qu'envers son prochain. Mais le christianisme lui aussi s'enferra rapidement dans des dogmes rigoureux et des rituels dénués de signification. Je comprends que dans les églises et les synagogues, on ait eu du mal à accepter ça. Au pire de la tourmente, Spinoza fut même rejeté par sa propre famille. On tenta de déshériter celui qui passait pour un impie. Et pourtant, paradoxalement, aucun philosophe ne s'est autant battu que Spinoza pour la liberté d'expression et la tolérance religieuse. La résistance à laquelle il se heurta fit qu'il mena une vie retirée, entièrement consacrée à la philosophie. Pour assurer sa subsistance, il taillait des vers optiques. Ce sont quelques-uns de ces vers que tu as vus tout à l'heure. Impressionnant! On peut presque voir quelque chose de symbolique dans le fait qu'il tailla des vers. Les philosophes apprennent aux hommes à regarder le monde autrement. Au cœur de sa philosophie, il y a l'idée de voir le monde sous l'angle de l'éternité. Sous l'angle de l'éternité? Oui, Sophie. Est-ce que tu arrives à voir ta propre vie sur le plan cosmique? Il faut que tu fermes les yeux à demi et t'imagines toi et ta vie, ici et maintenant. C'est pas si facile que ça. Rappelle-toi que tu vis une infime partie de la vie de l'univers. Tu fais partie de quelque chose d'immense et qui te dépasse. Je vois ce que tu veux dire. Arrives-tu à ressentir tout ça? Arrives-tu à appréhender toute la nature, c'est-à-dire tout l'univers d'un seul coup d'œil?
Ça dépend. Il me faudrait peut-être des lunettes spéciales.
Je ne pense pas seulement à l'espace infini, mais aussi à un temps infini. Il y a 30 000 ans de cela, vivait un petit garçon dans la vallée du Rhin. Il était une infime partie de la nature, un frémissement qui courait à la surface de l'océan infini. Il n'existe aucune différence entre ce garçon et toi.
Sauf que moi, je suis en vie.
Oui, mais c'est pourtant ça que tu aurais dû essayer de ressentir. Car qui seras-tu dans 30 000 ans?
C'était ça, ces idées subversives?
Pas tout à fait. Spinoza ne prétendait pas que tout ce qui existe au monde est de l'ordre de la nature, puisqu'il mettait en parallèle Dieu et la nature. Il voyait Dieu dans tout ce qui existe et tout ce qui existe en Dieu.
Il était panthéiste alors?
Bien vu. Pour Spinoza, Dieu n'était pas celui qui se contente de créer le monde pour le regarder d'en haut. Non, Dieu est le monde.
Spinoza exprime la même idée autrement en disant que le monde est en Dieu.
Il se réfère alors au discours de Paul aux Athéniens sur la colline de l'Aréopage.
C'est en elle, la divinité, en effet que nous avons la vie, le mouvement et l'être.
Mais examinons le raisonnement de Spinoza, tel qu'il se présente dans son ouvrage majeur intitulé « Éthique démontrée suivant l'ordre géométrique ».
L'éthique et la méthode géométrique?
Cela peut sembler bizarre, je sais.
Pour les philosophes, l'éthique est la doctrine des principes de la morale pour mener une vie heureuse. C'est dans ce sens que nous parlons de l'éthique de Socrate ou d'Aristote. De nos jours, l'éthique s'est vue réduite à un ensemble de règles à respecter pour ne pas marcher sur les pieds de son voisin.
Alors que penser à son bonheur personnel, c'est considéré comme de l'égoïsme?
Oui, à peu près.
Quand Spinoza utilise le mot « éthique », on peut tout aussi bien le remplacer par « art de vivre » ou « morale ».
Tout de même, l'art de vivre démontré géométriquement,
la méthode ou l'ordre géométrique fait référence à la terminologie et la présentation qu'il emploie. Tu te souviens que Descartes voulait appliquer la méthode mathématique à la réflexion philosophique pour garantir en quelque sorte sa légitimité.
Spinoza se situe dans le même courant rationaliste en voulant démontrer que la vie de l'homme est déterminée par les lois de la nature.
Nous devons, selon lui, nous libérer de nos sentiments et de nos émotions afin de trouver la paix et le bonheur.
Nous ne sommes quand même pas uniquement déterminés par les lois de la nature.
Ce n'est pas si simple. Spinoza est un philosophe beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, Sophie.
Prenons les choses une par une.
Tu te rappelles que Descartes distinguait deux substances, la pensée et l'étendue.
Évidemment.
Eh bien, Spinoza réfute cette distinction, car pour lui, il n'y a qu'une seule substance à l'origine de tout. C'est la substance, ce qu'il appelle aussi Dieu ou la nature.
Nous n'avons donc pas affaire à une conception dualiste de la réalité comme chez Descartes. Nous disons qu'il est moniste.
On voit difficilement ce qu'ils ont en commun.
En fait, la différence n'est pas aussi grande qu'on croit. Pour Descartes aussi, seul Dieu est à l'origine de lui-même. Ce n'est que lorsqu'il assimile Dieu à la nature, ou la nature à Dieu, que Spinoza s'éloigne à la fois de Descartes et d'une conception judéo-chrétienne du monde.
Car, dans ce cas, la nature est Dieu, point final.
Mais quand Spinoza utilise le mot « nature », il ne pense pas seulement à la nature dans l'espace. Avec la « substance », Dieu ou la nature, il entend tout ce qui existe, même dans ce qui est d'ordre spirituel.
À la fois la pensée et l'étendue, si je comprends bien?
Oui, c'est ça. Selon Spinoza, nous autres hommes connaissons deux qualités ou formes d'apparition de Dieu, à savoir les attributs de Dieu qui sont la pensée et l'étendue que Descartes avait déterminée. Dieu ou la nature se manifeste sous forme de pensée ou de choses dans l'espace. Il se peut que Dieu ait infiniment plus d'attributs que ces deux-là, mais ce sont les seuls auxquels les hommes aient accès.
Je veux bien, mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple?
Je reconnais qu'il faut être solidement armé pour s'attaquer à la langue de Spinoza, mais le jeu en vaut la chandelle, car la pensée qui se dégage finalement a la transparence et la beauté d'un diamant.
Tu excites ma curiosité.
Tout ce qui est dans la nature appartient soit à la pensée, soit à l'étendue. Toutes les choses et les événements de notre vie quotidienne, que ce soit une fleur ou un poème sur cette même fleur, sont différents modes de la pensée ou de l'étendue. Un modus, maudit au pluriel, est une modification de la substance infinie qu'est la nature. Une fleur est un mode de l'attribut de l'étendue. comme le poème sur cette même fleur, un mode de l'attribut de la pensée. Ainsi, chaque créature particulière apparaît-elle comme un mode de Dieu.
Plutôt tordu comme type.
Non, c'est juste sa langue qui est un peu alambiquée. Derrière ces formules assenées de manière péremptoire se cache une vérité splendide et d'une telle évidence que notre langue de tous les jours est trop pauvre pour la décrire.
Pour ma part, je préfère quand même la langue de tous les jours.
Très bien. Je vais commencer par toi-même. Quand tu as mal au ventre, qu'est-ce qui a mal?
Tu l'as déjà dit, c'est moi.
C'est vrai. Et quand tu penses plus tard que tu as eu mal au ventre, qu'est-ce qui pense?
Eh bien, c'est toujours moi.
Car tu es une personne, et une seule, qui tantôt a mal au ventre, tantôt est l'objet d'une émotion. Toutes les choses qui nous entourent physiquement sont l'expression de Dieu ou de la nature, de même nos pensées. Car tout est un, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule nature ou une seule substance.
Mais quand je pense à quelque chose, c'est moi qui pense. Et quand je me déplace, c'est toujours moi qui me déplace. Qu'est-ce que Dieu vient faire là-dedans?
J'aime ton engagement.
Mais qui es-tu?
Tu es Sophie Amundsen, mais tu es aussi l'expression de quelque chose d'infiniment plus grand. Tu peux affirmer, si cela te fait plaisir, que c'est toi qui penses ou qui te déplace. Mais ne peux-tu aussi dire que c'est la nature qui pense tes pensées et qui se déplace à travers toi?
En fait, tout n'est qu'une question de verre optique, de perspective.
Est-ce que ça revient à dire que ce n'est pas moi qui décide de ce que je fais?
En quelque sorte. Tu as peut-être la liberté de bouger le pouce quand tu le désires, mais il ne peut bouger qu'en suivant sa propre nature. Pas question pour lui de sauter de ta main et de courir dans toute la pièce. Toi aussi, tu as ta place dans le grand tout. Tu es Sophie, mais tu es aussi un doigt de la main de Dieu.
Alors, c'est Dieu qui décide de tout ce que je fais?
Dieu ou la nature ou les lois naturelles. Pour Spinoza, Dieu est la cause immanente de tout ce qui arrive. Il n'est pas une cause extérieure, car Dieu ne se manifeste que par ses lois naturelles.
Je ne saisis pas bien la différence.
Dieu n'est pas un montreur de marionnettes qui tire sur les ficelles en décidant de ce qui va se passer. Au contraire, tout dans le monde se produit par nécessité. Spinoza avait une conception déterministe de la vie sur Terre.
Ça me rappelle quelque chose.
Tu penses peut-être aux stoïciens. Eux aussi avaient affirmé que tout se produisait dans le monde par nécessité. D'où l'importance de faire face aux événements en gardant un calme stoïque. Il ne fallait surtout pas se laisser emporter par ses émotions.
Je comprends ce que tu veux dire. Mais je n'aime pas cette idée que l'on n'est pas maître de ses actions.
Revenons à ce petit garçon de l'âge de pierre qui vivait il y a 30 000 ans. En grandissant, il apprit à se servir d'une lance pour tuer les animaux. Il fit l'amour à une femme qui devint la mère de ses enfants, et tu peux être sûr qu'il vénérait les dieux de sa tribu. Crois-tu vraiment qu'il ait décidé tout cela lui-même?
Je ne sais pas.
Ou imagine un lion en Afrique. Est-ce lui qui décide de mener la vie d'un grand fauve, de se précipiter sur la première gazelle qui boite? N'aurait-il pas préféré être végétarien?
Mais non, le lion doit vivre selon sa nature.
Autrement dit, selon les lois de la nature. Tout comme toi, Sophie, car tu fais aussi partie de la nature. Bien sûr, tu peux t'appuyer sur des cartes et me rétorquer que le lion est un animal et non un homme doté d'un esprit libre. Mais prends l'exemple d'un nouveau-né. Il crie, et si on ne lui donne pas de lait, il sucera son pouce à la place. À ton avis, ce bébé a-t-il une volonté libre?
Non.
Quand aura-t-il une volonté libre alors? À l'âge de 2 ans, cette petite fille gambadera partout en montrant du doigt tout ce qu'elle voit. À 3 ans, elle épuisera sa mère par ses caprices, et à 4 ans, aura soudain peur du noir. Où est la liberté dans tout ça, Sophie?
Je ne sais pas. Et quand elle aura 15 ans, elle s'amusera devant la glace à se maquiller? Est-ce maintenant qu'elle prend des décisions personnelles et fait ce qu'elle veut?
Je comprends ce que tu veux dire.
Elle s'appelle Sophie Amundsen. Ça, elle le sait. Mais elle vit aussi selon les lois de la nature. Mais comment pourrait-elle s'en rendre compte, puisqu'il y a une infinité de causes extrêmement complexes derrière la moindre de ses actions?
Je n'ai pas envie d'en apprendre davantage.
Il faut que tu répondes encore à une dernière question. Imagine deux vieux arbres fruitiers qui ont été plantés en même temps dans un grand jardin. L'un a poussé au soleil et a bénéficié d'une terre riche et bien arrosée, alors que l'autre a poussé à l'ombre sur un sol pauvre. Quel arbre sera le plus grand et portera le plus de fruits?
Évidemment, celui qui aura eu les meilleures conditions pour pousser.
Eh bien, pour Spinoza, cet arbre est libre, à savoir qu'il a la liberté de développer toutes les possibilités qu'il porte en lui.
Bien sûr, s'il s'agit d'un pommier, il n'y a aucune chance pour qu'il donne des poires ou des prunes.
Il en va de même pour nous, les hommes. Nous pouvons rencontrer des obstacles, par exemple d'ordre politique, qui freineront notre croissance personnelle. Des contraintes extérieures peuvent nous inhiber. Aussi, est-ce seulement quand nous pouvons librement développer toutes nos possibilités en puissance que nous vivons en hommes libres? Mais nous restons en un sens tout aussi tributaires de nos dispositions de départ et des conditions extérieures qu'un petit garçon de l'âge de pierre, un lion en Afrique ou un pommier du jardin.
Je crois que ça me suffit comme ça.
Seul un être est la cause de lui-même, c'est-à-dire conçu par lui-même et peut agir en toute liberté. Seul Dieu ou la nature est capable de s'épanouir tout à fait librement. Un être humain peut lutter pour conquérir une liberté qui le délivre de contraintes extérieures, mais il ne jouira jamais d'une libre volonté. Comment pourrions-nous décider de tout ce qui se passe dans notre corps, qui n'est lui-même qu'un mode de l'attribut de l'étendue? De la même façon, nous ne choisissons pas ce que nous pensons non plus. L'homme n'a donc pas une âme libre, qui serait prisonnière d'un corps mécanique.
Ce point-là est un peu difficile à comprendre.
Mais non, Spinoza entend par là que ce sont des passions de l'âme, telles que la vanité ou le désir, qui nous empêchent d'atteindre le bonheur et l'harmonie. Mais il s'agit de percevoir dans une vision d'ensemble que tout fait partie de la nature pour former un grand tout. Ainsi, nous connaîtrons la béatitude et la paix de l'esprit. C'était ce que Spinoza appelait « tout voir, sub specie a eternitatis ».
Ce qui signifie
« de tout voir sous l'angle de l'éternité ».
N'est-ce pas par là que nous avions commencé ?
Et que nous devons nous arrêter. Je dois vite rentrer chez moi.
Alberto se leva et alla chercher une corbeille de fruits qu'il déposa sur la table.
Tu ne veux pas prendre un fruit avant de partir?
Sophie prit une banane et Alberto une pomme verte. Elle commença à éplucher la banane quand elle aperçut quelque chose.
Regarde, il y a quelque chose d'écrit,
dit-elle tout à coup. Où ça?
Ici, à l'intérieur de la peau de la banane. C'est écrit au feutre noir.
Sophie se pencha vers Alberto et lui tendit la banane. Il lut à haute voix. Coucou, c'est encore moi, Hilde. Je suis partout, mon enfant. Toutes mes félicitations pour ton anniversaire.
Très drôle,
commenta Sophie. Il est de plus en plus audacieux.
Mais tu ne trouves pas ça bizarre, toi? Est-ce qu'on cultive des bananes au Liban?
Alberto secoua la tête.
Moi, en tout cas, je ne la mange pas.
Tu n'as qu'à la laisser. Il faut vraiment être cinglé pour écrire à sa fille sur l'intérieur d'une peau de banane. Mais il a visiblement plus d'un tour dans son sac.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Bon, cela nous permet de déduire que le père de Hilde est loin d'être un idiot.
Je n'ai cessé de le répéter. C'est peut-être lui qui t'a fait m'appeler Hilde la dernière fois que j'étais ici. Qui sait si ce n'est pas lui qui nous fait parler?
Il ne faut rien exclure comme possibilité. Tout peut être mis en doute.
car toute notre existence n'est peut-être qu'un rêve.
Ne précipitons pas les choses. Il existe sans doute une explication beaucoup plus simple.
Enfin, de toute façon, il faut que je me dépêche de rentrer à la maison. Maman m'attend.
Alberto raccompagna Sophie à la porte. Juste quand elle s'en alla, il lui lança. « À bientôt, chère Hilde !» L'instant d'après, la porte se refermait derrière elle.